Un disciple sur le chemin présente Le miroir de l'Uroboros, podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme et à la métaphysique théosophique. miroir.uroboros.net. La voix du silence. Explication préalable. Avant de commencer la lecture de ce merveilleux texte qu'est la voix du silence, il me semble important de déterminer un certain nombre de termes et de mots, en sanskrit essentiellement, en pali aussi, qui apparaissent dans le cadre du texte. Plutôt que de m'interrompre et de faire en sorte de briser le rythme et la sonorité du texte, j'ai préféré vous donner des explications en préalable. Tout d'abord, vous rencontrerez le mot de Idhi. C'est un mot pali qui est synonyme du sanskrit Siddhi et qui signifie les facultés psychiques, les pouvoirs supranormaux de l'homme. Il y a, pour l'information, deux espèces de Siddhi ou Idhi. Un groupe qui contient les énergies psychiques et mentales inférieures, grossières, et l'autre groupe qui exige le plus haut entraînement des pouvoirs spirituels. En résumé, le Idhi consiste donc dans la somme des pouvoirs supranormaux de l'homme. Ensuite, vous rencontrerez aussi le terme de nada. Nada, c'est la voix muette ou la voix du silence. Littéralement, il faudrait peut-être lire la voix dans le son spirituel, mais en gros, il s'agit de la voix du silence qui donne son nom à notre traité. Puis, il sera fait mention de dharana ou dharana. Dharana est la concentration intense et parfaite du mental sur quelque objet intérieur de perception, accompagné d'une abstraction complète de tout ce qui appartient à l'univers extérieur ou au monde des sens. Donc, en gros, dharana est la faculté de concentration intérieure du mental. Puis, vous rencontrerez le terme de raja. Raja signifie simplement le roi, comme dans Maharaja, le grand roi. Le terme de sat fera également son apparition. Il s'agit de la vérité. Et donc, asat, avec le privatif a devant, signifie le faux. Le maître, ensuite. En réalité, lorsque dans la voix du silence il est fait mention du maître, il s'agit du maître intérieur, c'est-à-dire le soi supérieur, l'atman, le soi véritable. En gros, l'étincelle du divin en l'homme, sa racine ultime. En ce qui concerne l'âme, dont il sera fait également mention, il s'agit ici de l'âme humaine, l'ego humain, ou manas, dans un sens, la racine du mental. En gros, donc, l'âme devra être comprise comme le mental, la racine humaine de l'être. Vous trouverez également au cours du texte la référence à un animal mythique, le grand oiseau, ou le grand oiseau. C'est ce que les hindous appellent Kalahamsa, l'oiseau ou cygne. Le Kalahamsa, le grand oiseau, est un nom que l'on donne au Om, si souvent utilisé dans les méditations bouddhistes ou hindouistes. Ce mot de pouvoir est représenté par ce grand oiseau et s'écrit, dans ce cadre précis, qui est celui de la création, Aum, A-U-M. La syllabe A est considérée comme l'aile droite de l'oiseau. U, ou bien U, l'aile gauche. M, me, la queue. Et l'ardhamatra, le demi-mètre, comme sa tête. Ainsi, un yogi qui monte le Hamsa, c'est-à-dire qui médite sur Om, n'est pas affecté par les influences karmiques ni par les milliards de péchés. En clair, pour résumer, le grand oiseau est le verbe créateur, Aum. Nous rencontrerons également Mara, le séducteur, le tentateur, un autre nom pour Kama, le désir. Donc, se rappeler que Mara ou Mara est le désir. Il sera également fait mention, un petit peu plus loin, des trois états menant au quatrième. Il s'agit en fait des trois états de conscience qui sont Jagrat, la veille, Svapna, le rêve, et Sushupti, le sommeil profond. Ces trois conditions yogiques mènent à la quatrième, ou l'état Turiya, au-delà de l'état sans rêve. Il s'agit de l'état suprême, celui de la haute conscience spirituelle. Un petit peu plus loin, on parlera également, à propos de la salle de l'apprentissage, de la présence sous chaque fleur d'un serpent enroulé. Ce qu'il faut comprendre dans cette subtilité, c'est qu'il s'agit de la région astrale, le monde psychique des perceptions suprasensorielles et des visions trompeuses, Le monde des médiums. C'est le grand serpent astral d'Eliphas Lévy, nous dit Madame Blavatsky. Aucune fleur cueillie dans ces régions n'a encore jamais été rapportée sur Terre sans un serpent enroulé autour de sa tige. C'est le monde de la grande illusion. Viendra ensuite le concept de Akshara. Akshara, c'est la région de la pleine conscience spirituelle, au-delà de laquelle il n'y a plus de danger pour celui qui l'a atteinte. Donc, en résumé, Akshara est la région de pleine conscience spirituelle. On trouvera également la mention de l'adjectif Mayavik. C'est ce qui tient de Maya, l'illusion. Donc Mayavik signifie illusoire. Quant au gourou, traditionnellement traduit par maître, parfois même par père, on pourrait plutôt parler d'instructeur, c'est-à-dire l'initié qui conduit le disciple, par la connaissance qui lui est donnée, à sa naissance spirituelle ou seconde naissance. Donc, en résumé, le gourou ou guru est l'instructeur, le guide. On trouve également la référence à la notion d'ajnana. L'ajnana est l'ignorance ou la non-sagesse, puisque jnana signifie sagesse, connaissance. On trouve encore une fois donc le a privatif qui retire à jnana sa signification de connaissance. L'ajnana est donc l'ignorance. Quand le texte fera référence au pouvoir igné, il cessera cette fois-ci de faire référence au pouvoir du feu intérieur, la kundalini, le serpent de feu à l'intérieur de soi. On l'appelle parfois le feu électrique, ou phoat, dans certains ouvrages théosophiques. Lorsqu'on parlera également de la cavité intérieure du cœur, il faut cette fois savoir qu'elle s'appelle en sanskrit Brahmapura, c'est-à-dire la cité sacrée de Brahma. La mère du monde, dit-on, y séjourne. Madame Blavatsky commente en disant qu'il faut comprendre cette idée comme l'éveil de la kundalini, le feu intérieur, et le fait de voir Bouddhi, le corps de l'intuition spirituelle, se révéler actif, créateur, alors que jusqu'à présent il était passif. Ensuite, lorsqu'il sera fait référence dans le texte au Dieu intérieur, il faut le comprendre comme le maître précédemment mentionné, c'est-à-dire le soi supérieur. Quant aux Dhyani, les seigneurs de lumière, il s'agit des intelligences créatrices, similaires aux archanges du christianisme. L'avina, dont il sera également fait mention de façon sonore, est un instrument de musique ressemblant à un luth, la vina. Au cours des explications, nous tomberons également sur la référence aux six, à propos du fait qu'il faudrait tuer les six. Les six correspondent en réalité aux six principes dans l'homme. Il est possible de les énumérer de différentes manières selon l'angle de vision adopté, même s'il sera possible d'envisager ces six d'une autre manière, notamment en considérant que le corps physique n'est pas un principe, pour reprendre une expression chère à Madame Blavatsky, on pourra dire qu'il s'agit dans l'ordre de Chaya, l'ombre, le corps physique et éthérique à proprement parler, de Prana, en second, la vitalité, animant le corps éthérique, de Kama, en troisième, le désir pour le corps astral, appelé plus loin dans le texte le corps lunaire, ensuite en quatrième de Manas inférieur, ou Kama Manas, le mental inférieur matiné de désir pour le corps mental, puis, en cinquième position, de manas supérieur cette fois-ci, le mental supérieur, pour le corps causal ou corps égoïque. Et enfin, en sixième, de bouddhi, l'intuition, la sagesse, pour le corps dit bouddhique. Tous les six sont chaperonnés par un septième principe de synthèse, atma ou atman, la volonté spirituelle, pour le corps atmique. Selon un autre angle de vision, on aurait pu ne pas parler de chaya, le corps physico-éthérique, et considérer que les six principes commencent avec prana, s'achèvent avec atma, et que le septième principe de synthèse est cette fois-ci l'œuf monadique, la monade, située au-dessus de la trinité atma-buddhi-manas. En fait, tout est une question de point de vue adopté et de compréhension occulte de ce que représentent vraiment les six principes. Après cette référence-là, nous rencontrerons également la référence à un terme très connu dans la littérature théosophique, un arhat, un adepte, un maître parvenu à la libération spirituelle. Quant à Tana, la volonté de vivre, il s'agit en réalité de la force ou énergie qui cause les renaissances, fondées à la fois sur la crainte de la mort et l'amour de la vie. Tana, donc. En ce qui concerne l'upadi, il s'agit d'un terme qui signifie le véhicule, mais dans le cours du texte, il s'agira plutôt de la base, au sens de l'upadi de la flamme, la base de la flamme, la racine de la flamme. Il y aura également la rencontre du terme de dhyana, qui est en quelque sorte l'avant-dernier stage sur cette terre, après Dharana que nous avons déjà croisé, qui est celui du mental concentré à l'intérieur de soi. En Dhyana, le yogi est encore spirituellement conscient de soi et du travail de ses principes supérieurs. Suite à Dharana, la concentration mentale intérieure, et à Dhyana, l'avant-dernier stage sur cette terre, il y a également Samadhi, qui est l'état où l'ascète perd la conscience de toute individualité, y compris la sienne. Il devient alors le tout. Nous avons donc une trinité d'états spirituels, Dharana, la concentration mentale en soi, Dhyana, l'avant-dernier stage sur cette terre, qui est celui de l'intuition spirituelle du soi, et enfin Samadhi, le fait de perdre toute individualité dans l'union avec le tout.